Grandstanding in this battle like a vandalist with cans. Rationing and demands, man, dancing is a sucker's games. I'm piecing the puzzle together, so good, so just leave it alone with the fucking same. I know my brain, but I still feel the baseline. Once insane, I stumble in the bills filled with hate crimes. Make my exit to the left, yet cannot advance. So call all your dogs off, I guess I never got it.
Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Salut Olivier.
Salut.
Salut les auditeurs et les auditrices.
Je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Et on attend Adrien qui va animer cette émission dès qu'il va franchir la porte du studio.
Il arrive en guest star.
En guest star. Alors, on va parler de cinéma, de séries, de musique. Un quiz, Oliver.
Et oui, j'ai fait un quiz.
Et un quiz qui sent bon le karaoké.
Ça sent le karaoké, préparez-vous.
Je sens que ça va être très bien. Et donc, pour démarrer cette émission, comme d'habitude, on va écouter un morceau de musique. Alors là, je remercie Julien. Julien qui travaille à la radio.
Merci Julien.
Il nous a fait écouter tout à l'heure un morceau, mais d'anthologie, qui va faire arriver Adrien d'ailleurs. Parce que c'est tellement marrant qu'il va avoir envie de nous rejoindre tout de suite. C'est Dombrance avec Fillon dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5.
Voilà, un morceau d'anthologie pour démarrer cette émission. Dombrance, Lyon.
Alors pour retenir les paroles, ça va.
Ça va, c'est facile. Hein. Mmh. Alors il faut savoir que Dombrance a aussi fait Raffarin, Taubira et beaucoup d'autres, Giscard d'Estaing et tout ça. Donc c'est dans des styles musicaux différents, mais voilà, l'esprit est le même, hein. C'est assez délirant. Voilà.
Merci beaucoup Julien.
Alors on va démarrer cette émission en parlant, bah, comme d'habitude, de cinéma, puis après on parlera de séries, de musique, de tout ce qu'on aime. Quoi.
Tout ce
bandes geek mafia.
Tout ce qui est bon.
C'est que de l'amour.
C'est que de l'amour.
Alors, cinéma. Non mais, après moi j'hésite parce qu'on en a un super, et puis on en a un tout pourri. Ah, la flûte.
La dernière fois que j'ai mis de la flûte, je me suis fait un peu sinon, rabrouer.
Alors sinon on a celui-là. Mais là c'est un peu prétentieux, c'est un peu prétentieux. On a celui-là, qui est plus cinéphilique, celui d'Antonio. Salut Antonio.
Salut Antonio. C'est pas encore d'ailleurs.
Hier, on a vu Apocalypse Now ensemble.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles.
At night I tell you people, when that cold, cold sun goes down.
Alors justement, hein, je vais vous parler d'Apocalypse Now.
Wow.
Parce qu'hier soir, comme tous les mois, il y avait un plan culte au 400 coups. Et alors qu'est-ce que c'est le plan culte des 400 coups? Il y a tous les mois, c'est un film culte, hein, qui est diffusé dans notre cinéma angevin préféré. Alors déjà, il y avait une séance la semaine dernière, une première séance qui était complète tout de suite.
Oh.
Donc ils ont décidé de refaire un plan culte hier soir et c'était aussi complet. Voilà. Donc un énorme succès pour cette nouvelle version d'Apocalypse Now. Parce qu'en fait, c'est la troisième version, hein, de ce film. Il y avait eu la version originale originelle, même de 79, mmh, hein, qui faisait 2h36-38. Et puis, au début des années 2000, il y avait une version Redux, qui, comme son nom ne l'indique pas, était beaucoup plus longue, qui faisait plus 3h20, un truc comme ça. Voilà. Et donc là, c'est la version Final Cut 2019. Hein, ça y est, donc Francis Ford Coppola a décidé que c'était la version finale.
Le best-of.
Donc, il dure 3h. 3h02. Et en fait, on ne voit pas passer, hein, les 3 heures. Alors moi, le film, je l'avais déjà vu à la télévision, Apocalypse Now, hein, dans sa version originelle. Là, je ne l'avais jamais vu au cinéma. Et alors, c'est, comment dire, c'est un gros délire. C'est un trip, quoi. Visuellement, c'est intense, quoi.
Le son, de toute manière, de ce film-là, c'est juste énorme.
Ah, mais les images, le son, les raccords, voilà, les raccords son, les raccords images, enfin... Et puis alors les acteurs sont extraordinaires. C'est un film complètement hallucinant en fait.
Au cinéma ils sont plus grands aussi.
Ils sont, ouais, et puis ils sont plus fous quoi. Donc en fait de quoi ça parle Apocalypse Now? C'est inspiré d'un roman de Conrad qui s'appelle Au-delà des ténèbres ou quelque chose comme ça. En fait ça se passait en Afrique, c'était le parcours initiatique d'un aventurier en Afrique. Là c'est transposé pendant la guerre du Vietnam par Francis Ford Coppola. Et il faut dire aussi que le tournage a été complètement dantesque. Hein. Faut voir, il y a eu un documentaire sur le tournage d'Apocalypse Now. C'est l'apocalypse,
pour ah
le
ouais coup,
c'est le chaos. Quoi. Bah, il avait 13 millions de budget, il a fini avec 31 millions tu vois, de dépassement. Et en fait, c'est un truc complètement mégalomane. Quoi. Bon, il a quand même eu la Palme d'Or, c'est mérité. Mmh. Alors, de quoi ça parle donc? On a le capitaine Willard, qui est chargé par l'armée, donc pendant la guerre du Vietnam, de remonter un fleuve jusqu'au Cambodge pour aller éliminer le colonel Kurt. Le colonel Kurt qui a complètement pété les plombs. Quoi. Alors qu'Adrien rentre dans le studio, alors que revoilà la sous-préfète.
En sueur.
Donc Adrien, je suis en train de parler d'Apocalypse Now, parce qu'hier c'était le plan culte aux 400 coups. Et donc je disais tout le bien que je pense de ce film, surtout au cinéma. Un film complètement hallucinant, halluciné, avec des acteurs géniaux. Et donc, je racontais l'histoire. Willard doit éliminer Kurtz, sauf que pour atteindre le colonel Kurtz, il doit franchir tout un tas d'étapes. C'est un peu comme aussi un conte philosophique, comme Candide, etc. Hein, il doit franchir des étapes, un conte initiatique, un récit initiatique. Et on va à la fois découvrir une facette de la guerre du Vietnam. Donc c'est aussi un film de guerre, mais c'est pas seulement un film de guerre. C'est un film psychédélique, hallucinant, halluciné. Et il faut le voir au cinéma. Hein. Vraiment, c'est pas du tout la même expérience, quoi. Donc voilà, donc moi je vous conseille de revoir, ou de voir d'ailleurs, Apocalypse Now, même si vous n'avez pas la chance de le voir au cinéma, vous pouvez le voir chez vous, tranquillement, sur un bel écran. Il faut du son, hein, t'as raison Olivier, il faut un bon son. Et puis aussi de voir le documentaire sur le tournage du film, parce que ça c'est quand même extraordinaire, ce tournage complètement chaotique. C'est fou qu'ils aient réussi à finir le film.
Alors lancer une pétition auprès du 400 coups pour refaire
un troisième
plan culte, mais attention, trop de plans cultes.
Bah, nuit peut-être. Ouais. Alors d'ailleurs le prochain plan culte sur Alien, il est annulé. Ah. Alors vous savez peut-être pas, mais en fait la Disney a racheté les droits de la Fox, et du coup les droits de la Fox sont bloqués. C'est-à-dire que les films Fox ne peuvent plus être pour l'instant diffusés. Les films dont la Fox détient les droits ne peuvent plus être diffusés dans les salles de cinéma. Donc les Aliens là, bon, bah, c'est annulé, ce sera reporté bah, quand les droits seront à nouveau ouverts. Donc le prochain c'est au mois de décembre, c'est Pulp Fiction, voilà. Pour ouais. ceux qui veulent revoir, voir ou revoir Pulp Fiction.
Dont les droits n'ont pas été
voilà,
encore...
qui n'appartiennent pas à la Fox, a priori. Donc vous pourrez voir le prochain plan culte aux 400 coups le 17 décembre, je crois, pour Pulp Fiction. Bon, moi, que j'ai revu récemment, j'adore un Tarantino, donc je ne pense pas que j'irai. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir vu Apocalypse Now au cinéma. Et je salue Antonio. C'était une belle expérience.
Voilà. Et on remercie aussi les 400 coups de faire ces plans cultes.
C'est super.
Ce sont des films, au départ, qu'on suppose tous avoir déjà vus.
Eh ben non, en fait. Mais... Dans la salle, l'animateur de la soirée présente toujours le film, hein, quand il y a une soirée culte. Et en fait, il a demandé aux gens, voilà, qui n'a jamais vu le film. Donc, hop, je pense qu'il y a peut-être un tiers, voire la moitié de la salle qui a levé la main. Qui n'a jamais vu au cinéma l'autre moitié. Et puis, quelques vieux qui l'avaient vu à sa sortie, mais très peu, finalement. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, c'est chouette. Et puis, ce sera bientôt le festival Premier Plan, alors ça n'a rien à voir. Et en même temps, il y a un point commun, c'est-à-dire qu'il y a aussi des rétrospectives de réalisateurs cultes ou de films cultes dans le cadre du festival Premier Plan. Donc allez-y, quoi. Allez au cinéma.
Allez au cinéma.
C'est pas du tout la même expérience de voir le film sur grand écran qu'à la télé. Le cinéma, ça reste quelque chose d'important. Alors Adrien, salut.
Salut Seb, salut Olivier.
Comment ça va ?
Un petit retard, bah écoutez, ça va. Hein ? Quelques intempéries.
Est-ce que tu as entendu notre super chanson pour démarrer l'émission ?
Malheureusement non, j'étais...
T'as pas entendu ça ? Je vais peut-être pas la remettre.
Non, peut-être pas.
Ça s'appelle Dombrance et le titre c'est Fillon.
Ah sympa.
Alors c'est Julien qui travaille à la radio qui nous a fait découvrir ça tout à l'heure. C'est juste énorme.
Tu vas pas la remettre, mais quand même un peu.
C'est pour Adrien.
Ça fait plaisir.
Non, pas du tout, mais tu iras écouter ça, Adrien.
Je vais pas y manquer du tout.
Non, moi je voulais bien sûr qu'on écoute ceci. Parce que c'est le début du film Apocalypse Now. C'est les Doors avec The End. Alors j'adore, moi, un film qui commence par The End. Je trouve ça génial.
Alors, spéciale dédicace à Nathalie, parce que je crois que c'est une de ses chansons préférées.
C'est vrai ?
Oui.
Waouh.
The End, c'était peut-être pour marquer la fin du tournage, justement. Le début du film.
Vous êtes bien dans Bande Geek Mafia sur Radio G
101.5, la radio qui fait le poids.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free.
and all the children are insane. Older children are insane. Wait for the sun.
This is the end.
C'était The Doors sur Bonne Geek Mafia et Adrien, donc je reprends.
Au micro.
Le micro.
C'est Momo la technique.
C'est Momo la technique.
Salut Seb. Il a récupéré la sucette.
Voilà. Bah écoutez, ravi de vous retrouver les auditeurs. Et donc on est parti pour notre émission Bonne Geek Mafia. Seb, il me semble que tu venais nous parler d'une petite série.
Oui, alors après avoir parlé cinéma et films cultes, hein, je voulais aborder le versant série un petit peu de l'émission.
Ok.
Et je sais que Olivier aussi a une petite série intéressante. Alors moi, c'est The End of the Fucking World. Alors je sais qu'il y a un gros beau dans le titre.
Ouais,
c'est pas beau,
pas grave.
C'est pas joli. Mais c'est une série vachement sympa. Alors je sais qu'Héloïse l'a vue et qu'elle a beaucoup aimé. Alors de quoi ça parle ? D'abord, c'est une série anglaise. C'est pas une série américaine.
Je te coupe, mais j'ai trouvé un petit truc pour vous introduire tous les deux.
Oh, joli.
Mais pas trop fort. Hein.
Pas trop fort.
Pas trop fort. Non, non, vous en faites pas. Ça devrait aller. Attention, on est parti.
Oh là.
Ah ouais, c'est parce qu'on est vieux, quoi.
Non, 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 c'est parce que j'aime bien.
Ça, c'était sur Canal.
Exactement. C'est lui pour parler de série.
Excellent. Alors, The End of the Fucking World, je disais, c'est une série anglaise. Et déjà, c'est sympa parce que ça change un peu des séries américaines. Et puis, surtout, l'histoire est vachement, vachement chouette. Alors, c'est dans la saison 1, puisqu'il y a deux saisons hein, pour l'instant. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. D'ailleurs, la showrunneuse ne souhaite pas faire une saison 3, c'est dommage. Et en même temps, c'est un gage de qualité. Alors, la saison 1, c'est l'histoire de deux ados. Hein, il y a James. James, il est super mal dans sa peau. Il vit avec son père qui est veuf. Et en fait, il a l'impression d'être complètement psychopathe. Il a envie de tuer quelqu'un. Clairement, voilà. C'est un serial killer. Alors, il a tué personne pour l'instant à part des animaux, mais il a envie de tuer quelqu'un. Et puis, il croise une fille dans son lycée hein, qui s'appelle Alyssa. Et donc, il s'est dit, tiens, bah, c'est elle que je vais tuer. Comme ça, je vais...
Au hasard.
Au hasard, ouais, ouais. Okay. Et sauf que Alyssa, en fait, c'est une fille qui est vachement attachante parce qu'elle est rebelle, tu vois. Elle a du caractère, elle est rebelle. Et finalement, avant de la tuer, il va la découvrir, il va apprendre à la connaître et il va commencer à avoir des sentiments pour elle, en fait.
C'est ballot.
Lui qui n'avait pas de sentiments, il a des sentiments pour Alyssa qu'il veut tuer.
Ouais, règle numéro 1, ne jamais s'attacher à sa victime.
Voilà, et ben là, c'est raté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vu que ce sont deux ados, ils ont 17 ans, ils en ont marre, lui il en a marre de son père, voilà, elle en a marre de tout le monde parce que tout l'agace, ils décident de partir, en fait ils fuguent tous les deux quoi,
okay.
ils se barrent, ils partent sur la route, et alors là c'est parti pour une aventure complètement délirante parce qu'ils vont croiser plein de personnages plus dangereux les uns que les autres, plus loufoques les uns que les autres, alors, voilà. Et jusqu'à la fin du monde, hein, jusqu'à the end of the fucking world. Et puis la saison 2 donc, qui est sortie au mois de novembre là, et donc, alors ce qui est génial aussi c'est que 8 épisodes par saison, des épisodes de 20 minutes donc c'est génial, on passe pas des jours à regarder,
un week-end.
La deuxième saison, alors je peux pas trop vous en parler parce que c'est la suite de la première et donc il se passe tout un tas d'événements dans la première et donc c'est la suite là quand même. James et Alyssa sont en danger. Voilà, ils sont en danger.
En danger l'un vers l'autre.
Non, alors eux, ils sont quand même proches l'un de l'autre, mais ils sont en danger parce qu'il y a un troisième personnage qui apparaît dans la saison 2 qui vient menacer leur.
En triangle amoureux ou
Pas du tout, non. Pas du tout, non. Qui vient menacer leur amitié qui est pas vraiment une. Enfin, je peux pas trop vous en dire.
Ok, on t'en demande pas plus.
Voilà, donc ils sont. Voilà, donc. Honnêtement, si vous avez envie de voir une série qui est sympathique, qui est originale, qui est touchante, pour laquelle on ne s'ennuie pas du tout hein, et qui ne vous prendra pas des heures et des heures, regardez The End of the Fucking World.
Wow. Bip.
Bon, voilà. Bah, ça a l'air intéressant tout ça. Et ça passe. Où est-ce qu'on peut la voir cette série sans forcément.
Bah, alors moi je regarde tout en streaming.
Ok, bah voilà, comme ça c'est dit.
Voilà, donc en streaming. Sinon, je sais pas où. Si, ça doit être diffusé sur NX, non?
Ah, peut-être bien.
Bah, ouais, ça doit être diffusé sur NX.
On vous fera un topo à la prochaine émission.
Si Héloïse nous écoute, hein, elle nous dira.
Et vous pourrez, on vous mettra l'info sur la page de Bonne Geek Mafia, puisqu'on vous invite à rejoindre à la fois le groupe et la page sur Facebook.
Oui, non, mais on peut dire.
On peut dire Facebook.
Alors, on a des auditeurs qui nous saluent. Hein, donc, on fait une bise à Anaïs, on fait une bise à Seb, hein, qui nous envoie des petits messages. Yes. C'est très sympa.
On pense à vous, les amis. Et on vous prépare quelques petites choses sympas pour vous faire découvrir.
Et Oliver a une série aussi. Hein.
Alors, moi, c'est pas une grande découverte, mais dans ces temps un peu de fatigue où la télé me regarde plus que je ne la regarde, j'ai regardé une série qui est passée sur France 2. Ça devait être dimanche. The Fix, une série policière. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Plutôt agréable. Oh. Alors, c'est pas d'une grande originalité, mais ça se regarde bien. En fait, c'est une ancienne procureure qui a raté un procès qui engageait la responsabilité d'une star de hollywoodienne. Et elle a raté ce procès et elle est partie parce qu'elle avait été traînée un peu dans la boue. Et elle revient parce que cette star est à nouveau accusée d'un nouveau meurtre. Donc ça se regarde. Disons que c'est pas la série exceptionnelle, mais ça se regarde bien. Et c'est assez surprenant pour une série qui passe aux grandes écoutes sur France 2. Mmh. Voilà.
Série française ou
Absolument pas du tout américaine.
Pas du tout française, mais très américaine.
Est-ce que tu te souviens un peu en acquis comme acteur éventuellement, si tu aurais l'info ou je te.
On en parlait d'ailleurs avec Sébastien juste avant. Ça devient assez récurrent quand on a des séries américaines. On a à peu près toujours les mêmes visages qui apparaissent. Alors en l'occurrence, l'actrice principale, elle s'appelle Robin Tunney. On l'a vu, c'est l'héroïne de The Mentalist. Et en deuxième acteur, il y a Adam Ryer. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette série. C'était Tyran sur je pourrai en reparler une autre fois. Mais la distribution est vraiment bien. Donc série à regarder si vous n'avez pas regardé The End of the World.
Ok. Donc on résume, on avait The End of the Fucking World et on avait
The Fix.
Ok. Bah avec Just tout ça, fix. On a. On a de quoi faire. En parlant de ce qui passait à la télé cette semaine, on a eu une rediffusion sur TMC ou W9, je ne sais plus exactement, de Iron Man, le tout premier film qui a lancé donc le Marvel Cinematic Universe.
Ah oui.
Et donc, pour continuer un petit peu en musique, je vous propose du AC/DC.
Ouais.
Highway to Hell sur Bone Geek Mafia, Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Check it!
AC/DC sur Band Geek Mafia.
Ils sont
cool.
Ils sont connus, ceux-là.
Ils sont connus, ouais.
C'est un nouveau groupe. C'est...
En tout cas, ça fait plaisir aux auditeurs.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Écoutez, je suis bien content que ça vous fasse plaisir parce que nous aussi, on s'est bien éclatés dans le studio. Alors, petit jingle, on va partir. Je vais vous parler d'une nouvelle série qui vient de sortir. Ouh, et cool. Pour une fois, elle n'est pas sur Netflix.
Oh. Ça, c'est. Inspecteur Gadget.
Et oui, j'ai mené l'enquête cette semaine sur Amazon Prime, une fois n'est pas coutume. Et je vous emmène retrouver un acteur très connu qui a joué un certain elfe blond.
Ah oui.
Dans un petit film qui n'a pas fait beaucoup d'entrées avec Peter Jackson à la réalisation.
Oui, je vois, Le Seigneur des Anneaux.
Voilà, un petit film indé.
Les Godasses.
Voilà, les Godasses. donc en fait, on a Amazon Prime finalement qui nous tease un petit peu le fait qu'ils vont reprendre Les Seigneurs des Anneaux en série télé.
D'accord.
Ils ont les droits, ils nous préparent ça. Et là, ils nous ont sorti une petite série qui s'appelle Carnival Row, qui a l'air pas mal du tout, puisque au casting, on retrouve donc Orlando Bloom dans une série télé, et on retrouve avec lui donc Cara Delevingne, qu'on avait vu avec Luc Besson dans Valériane. Je sais pas si vous vous souvenez.
Non.
Donc une jeune actrice. Certains trouvent que son jeu est pas assez diversifié. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Je vais vous parler un petit peu de la série parce que finalement. Pour les films, pour la fantasy, finalement, est-ce que le meilleur cadre, ce serait pas la série télé ? Parce qu'on a eu donc le triomphe global, populaire, mais aussi critique de Game of Thrones. Il était prévisible, du coup, que les ambitions d'Amazon Prime, qui a quand même été cruellement distancé par Netflix, l'amènent à aborder franchement le genre. Donc, en attendant, a priori, le défi d'une nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux. Alors, Carnival Row, donc, qui a été mis en ligne sans trop faire de bruit, est pourtant une grosse affaire. Donc, on est dans une ambiance steampunk excitante, au cœur d'une cité façon fin du 19e siècle. C'est né un peu de la fusion digitale réussie entre Londres et Prague, et on nous propose un thriller fantastique qui est vraiment bien troussé, qui peut rappeler le fameux From Hell d'Alan Moore.
Excellent.
Ouais. Et c'est enrichi en outre de messages politiques anti-trumpiens, c'est assez croustillant, entre la fidélité que l'on doit à ses alliés, les Kritch, ici les Kurdes, notre chère et tendre réalité, et la nécessaire humanité qui doit dicter la construction d'un monde acceptant l'immigration forcée et les changements sociaux que celle-ci induit. Puisqu'on nous parle d'immigration de fées, entre autres.
Ah ouais.
Vous allez voir. Donc en ajoutant des acteurs intéressants aussi du coup forcément, Orlando Bloom qui est désormais épaissi et franchement c'est un de ses meilleurs rôles parce que contrairement à nous faire l'elfe certes un peu badass mais quand même un peu fragile, là il nous campe un inspecteur de police particulièrement bourru, assez violent et qui est vraiment intéressant, le personnage a de la profondeur.
D'accord,
on a
c'est
aussi,
pas donc, Sherlock Holmes quoi.
Pas du tout. On a donc Cara Delevingne aussi qui est surprenante et Jared Harris qui est impeccable comme toujours. On a vraiment un gros budget aussi côté effets spéciaux qui assure donc une crédibilité totale à l'univers qui est fortement référencé. Donc référencé à Angleterre victorienne, bestiaire traditionnel, on a les fées, on a les faunes, on a vraiment tout le bestiaire. Et pourtant, on arrive quand même à trouver ça joliment original et on obtient inévitablement un objet qui est quand même assez intriguant. C'est même excitant parfois, comme le du très beau troisième épisode, hein, où on sort de la Burg, de Burg en anglais, qui est la ville, alors c'est pas un Globi-Boulga, c'est le nom de la ville en fait, et d'une des deux civilisations humaines, un des deux empires humains, où se sont réfugiés tous les personnages mystiques. Donc on revient vraiment à l'heroic fantasy classique, on est ouvert sur des mondes vraiment riches, des mondes imaginaires vraiment riches, et dans les deux premiers chapitres de la conclusion, qui est assez surprenante, qui est très engagée, on réalise pleinement le potentiel de l'histoire qui nous a été racontée. On a vraiment une apothéose à la fin de la série, enfin à la fin de la première saison en tout cas. Parce qu'avant d'en arriver à cette excitante résolution, on a régulièrement peut-être été un peu irrité de la prévisibilité de l'intrigue. L'histoire avance en mode un peu pilotage automatique et surtout on a un petit peu de simplisme de la critique du politiquement correct bien pensant. On a les réflexes un peu racistes de la population de Burg vis-à-vis des réfugiés. Du coup, dès le premier épisode, on sait un petit peu où on va nous emmener sur le pitch, en tout cas politique de l'histoire. Bon, malgré tout, on a le sentiment de recevoir de la part d'une série une lourde leçon de morale. Ça, c'est peut-être un petit peu. Ils n'ont pas été très subtils là-dessus. Par contre, ils ont été vraiment bons sur le reste. Et c'est donc là que c'est intéressant. C'est vraiment sur l'histoire entre les personnages, les relations interpersonnelles finalement, le lien qu'ils ont eu, la qualité de ce qu'on voit à l'écran, la qualité de l'image, la qualité de l'univers, il est vraiment profond, riche, on sent qu'on a envie de creuser la moindre petite information qu'on nous donne parce que ça a l'air super intéressant, comme quand on a un bon bouquin et que finalement on se dit mais ça c'est quoi Un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux avec les romans annexes, les contes et légendes inachevées, le Silmarillion, etc. Donc c'est vraiment une délicieuse surprise cette série, parce que le propos à la fin devient finalement bien plus subtil. On a le dévoilement d'une intrigue qui est notablement plus retorse que ce à quoi on s'attendait finalement dans les deux derniers épisodes. Et on a une vraie belle ambiguïté de certains personnages, hein. Ça renvoie d'ailleurs à certaines situations qu'on a pu connaître dans Game of Thrones. Politiquement même, la fin de la saison décrit très bien comment une démocratie peut basculer très rapidement vers le fascisme sous la pression populiste et sous l'effet des mécanismes bien connus de la peur. On joue sur la peur des gens pour leur limiter leur liberté. Les dernières scènes, on répète symboliquement la création d'un ghetto, comme celui d'affreuse mémoire évidemment de Varsovie, et les images par contre en deviennent superbement marquantes. Donc sont à l'honneur d'une série qui se sera avérée bien plus convaincante qu'on l'imaginait a priori. Donc on a vraiment là un objet télévisuel que je vous invite vraiment à aller voir.
C'est vrai que visuellement c'est très beau. Hein.
C'est magnifique, ils ont vraiment mis le paquet et l'univers est de la première image du premier épisode jusqu'à la fin de la première saison, on est sur quelque chose de à 100% crédible.
Il y a combien de saisons en fait
pour le moment il y en a une.
Ouais. Il y a pas de saison 2.
Et deuxième, il me semble qu'elle est commandée.
Ouais. De combien d'épisodes?
Alors attends, là tu me poses une colle. Je crois que c'est 8, mais c'est peut-être un peu 8 ou 12. Je sais si on est sur ce format.
Donc il faut accepter peut-être d'avoir un ou deux épisodes un peu plus lents ou de mise en place. Non,
c'est pas tellement le rythme qui va pâtir. On est plutôt sur le fait de. On va deviner que va y avoir une problématique liée aux immigrés, en fait, puisque sur le pitch de base, les deux empires humains, le Pacte et le Burg, se sont affrontés sur la terre mythique des fées, où il y avait tous ces animaux fantastiques. Ils les ont réduits en esclavage, massacrés pour la plupart, et du coup, ces fées quittent leur terre pour aller se réfugier chez The Burg, qui était a priori un peu plus progressiste que les autres, qui font que les massacrer à l'appel. Manque de bol, les immigrés sont pris par des passeurs qui leur font signer des contrats.
C'est assez d'actualité quand même.
C'est pas mal d'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a finalement avec Orlando Bloom une grosse figure de proue pour porter la série. Il le fait très très bien du début à la fin. On a pas mal de personnages secondaires qui apportent vraiment du piquant à la série et ça donne vraiment vraiment envie à chaque épisode de voir la suite. Donc je conseille, y compris pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, qui seraient pas forcément très fans de la fantasy, parce qu'on rentre très facilement dans cet univers-là, on est vraiment tout de suite.
Oui, pour découvrir le genre, ça peut être bien.
Ça peut être tout à fait bien.
C'est pas pour les enfants.
Alors non.
Les ados. Ouais.
Pas vraiment. Les scènes peuvent être assez violentes.
Il y a de la violence,
Et il y a aussi un peu de sexe. Moins que dans Game of Thrones. Hein.
Oui, mais... En même temps, c'est difficile de faire beaucoup plus. Après,
Oui, je suis assez d'accord. Mais on est sur
avec des elfes.
Oui. Avec des fées.
Olivier, ça lui plaît. Ça.
Avis aux amateurs, pour tous les gens qui ont une sexualité portée sur les elfes.
Voilà, si vous avez envie de faire ça avec des ailes de fées dans le dos. Mais c'est pas le cœur de la série, j'insiste quand même.
Non, bah heureusement.
Se doute.
Écoutez, on va repartir sur une petite thématique peut-être un petit peu plus rock. On va se faire accompagner par un chanteur aussi qui commence un petit peu comme Peter Jackson dans la réalisation. J'ai nommé Marilyn Manson, Rock is Dead, sur Bonne Vie Pompia.
100-5, la radio qui fait le point.
Yeah.
c'était Marilyn Manson.
J'adore.
Sur Bone Geek Mafia. Eh oui. Alors, pour la suite, on va voir si finalement...
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et oui, c'est un petit peu ce que j'ai éprouvé quand j'ai découvert la série de BD Renaissance, dont je vous avais déjà parlé. Alors Anaïs, pour le petit passage, je t'ai emprunté ton jingle.
Merci Anaïs.
C'est une BD dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, un ou deux mois de ça, même un peu plus peut-être, sur un scénario dont je vais vous faire le petit rappel. On est en 2084.
Olivier, alors son téléphone sonne. Alors,
c'est mon téléphone.
Je sais pas. Il regarde des. Pendant... Alors ça, c'est pas sympa pour les copains. Non. Il regarde des vidéos pendant la chronique d'Adrien.
Je regardais la pub pour ça. Et le problème, c'est que maintenant, dès qu'on va sur YouTube et ainsi de suite, on se retrouve avec les publicités. Et
il faut dire aux auditeurs qu'on a des casques, donc on n'entend pas ce qui se passe.
Oui.
Donc il faut mettre
en
mode avion.
On vous enverra un de ces quatre sur la page Facebook une photo du studio, comme ça vous nous verrez en action.
Allez,
alors, pour la BD Renaissance, on est en 2084 et les pires scénarios prédisant la funeste destinée de la Terre se sont réalisés. Eh oui. Donc on a une fédération extraterrestre, la Fédération des Intelligences Mammifères, attention, décide d'engager une intervention sur cette planète en voie d'extinction. Swan, qui est une jeune extraterrestre, qu'un jeune extraterrestre droit et ouvert se porte volontaire. Il est originaire d'une planète apparaissant comme une version réussie de notre monde et il souhaite contribuer à pacifier la Terre et empêcher son anéantissement. Sa rencontre avec Liz au Texas marque le début du choc des deux mondes. Alors je vous avais parlé du premier tome finalement où on a l'arrivée de cette fédération extraterrestre sur la Terre et où il participe à notamment éteindre les feux qui animent les puits de gaz et les puits de pétrole un petit peu partout dans le monde et ils mettent aussi fin à certaines guerres qui étaient en cours entre humains. Donc on a eu après un premier tome finalement qui était un peu classique mais très efficace et franchement beau. Moi j'attendais ce tome 2 de pied ferme, donc l'intrigue reprend là où on l'avait quitté. Elle est par contre beaucoup plus rythmée et encore plus variée puisqu'on suit maintenant trois points de vue. On a deux groupes qui mélangent sauveurs extraterrestres et humains sur Terre et les intrigues politiques qui se jouent au sein de la coalition extraterrestre venue sauver la Terre. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc cette coalition porte bien son nom puisqu'elle s'appelle le Complexe. Et la situation politique est justement bien plus complexe et moins manichéenne que ce à quoi laissait penser le premier tome. Les différents membres de cette coalition ne sont pas tous aussi nobles les uns que les autres, que ce soit par leurs objectifs ou leurs méthodes. Et le mystère s'épaissit aussi du côté du pourquoi du comment les intelligences artificielles des machines terrestres sont parties en sucette. Puisque nos héros, nos différents protagonistes, en tout cas, vont y être confrontés plus d'une fois. Et on découvre d'ailleurs des horreurs sur ce qui a pu se passer sur Terre avant que les extraterrestres n'arrivent. Donc là où le tome 1 était déjà impressionnant en termes d'idées et de réalisation visuelle, cette suite nous donne carrément du Sons of Wonder. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors oui, si vous êtes un gros consommateur de SF et de hard SF, vous aurez déjà croisé sous une forme ou sous une autre les designs et les concepts qui sont développés dans la BD. Mais pour de la BD franco-belge, à la fois SF et grand public, ça va plus loin que ce qu'on croise habituellement. Et ça, c'est vraiment bien. Par exemple, les intrigants chasseurs origami, donc ce sont des sortes de F-16 extraterrestres ultra puissants, aperçus dès le premier tome, sont en fait plus que de simples drones. Je vous en dis pas plus. On assiste aussi à une transformation de la Lune, attention, ou encore cette scène où l'on voit des personnages humains via les capacités d'un extraterrestre qui va pouvoir communiquer avec un animal sauvage, pour un petit moment d'émotion, puisque c'est un des humains qui communique avec un des derniers éléphants. Et on ne sait pas ce à quoi on s'attend. Il y a encore plein d'autres chouettes trucs utilisés par les scénaristes, dont des chouettes technologies. Sur le plan visuel, on a le travail du dessinateur et même au dessin et à la couleur qui est toujours aussi impressionnant. C'est vraiment riche,
ouais,
détaillé.
C'est vraiment beau.
C'est visible, c'est beau. Hein. Là, je fais tourner les BD dans le studio et je vous invite vraiment à aller les voir. C'est vraiment magnifique. On a quelques grandes cases qui nous montrent des paysages naturels ou des zones dévastées superbement rendues. Je trouve même que ce tome, franchement, il est un cran au-dessus pour ce qui est des lumières et des ambiances. Globalement, si vous avez aimé le premier tome, vous adorerez la suite. Alors, c'est plus intense et développé sur le plan scénaristique, c'est encore plus beau visuellement, et c'est vraiment pour moi une grande réussite. Donc j'attends le tome 3 avec vraiment beaucoup d'impatience, et pour voir tout ce qui a été mis en place, pour vérifier que ça marche bien, et donc c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite vraiment.
Effectivement, au niveau du graphisme, c'est vraiment très beau.
Ouais, donc on est sur Renaissance, aux éditions d'Argo.
D'Argo, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc aux éditions d'Argo, on a le dessinateur qui s'appelle MM et au scénario, donc les scénaristes sont Franck Duval et Blanchard.
Mais tu sais qu'on commence à faire des cadeaux de Noël, et là je sens que ça peut être un super cadeau.
Ça peut être un super cadeau, vraiment.
Ouais.
Alors, on va teaser aussi un petit événement qui va se produire dans un peu moins d'un mois, puisque le 18 décembre sort un autre petit film indé.
Star Wars.
Voilà, dans un petit studio qui démarre, Lucasfilm.
Et on va faire une émission spéciale.
On va faire une émission spéciale. Et donc, ouais. On pourra vous parler, si vous êtes en retardataire, cadeau de Noël, croyez-moi, on va vous donner quelques pistes.
On va parler des films, mais on va pas parler que des films.
Et non.
On va parler des comics, des jeux vidéo.
On va parler de l'univers étendu. Ouais. Donc, ça promet d'être intéressant.
Donc, le 18 décembre. Soyez comme d'habitude à l'écoute de Radio G.
Exactement.
La force sera en vous.
Eh ouais, tout à fait.
Ou avec vous, c'est mieux.
Ouais. Oui, ça va peut-être être un peu mieux. Je vais lancer un petit jingle et puis on va voir de qui on va parler.
Ah.
Attention, c'est parti.
Surprise, surprise.
Ardour, c'est la guerre.
Sire, il vous propose de régler la question du traité au jeu.
Jouer, guerre.
Jouer. Je crois qu'il veut nous dire que c'est à lui de commencer. J'ai jamais joué à ça, je sais même pas ce qu'il faut faire.
Et c'est le retour du quiz avec Oliver.
Et oui, alors il sait pas ce qu'il faut faire, Arthur, mais je vais lui expliquer. Alors, sur les morceaux de musique d'aujourd'hui, en fait, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'ils sont deux sur le même morceau. Donc, en fait, c'est un mélange de deux chansons. Donc, il faut trouver les deux chanteurs.
Un mélange de
attention,
deux.
Attention.
Ah oui. Donc ça c'est un gros mix quoi. C'est un bootleg.
Yes sir.
Alors ça va être intéressant.
Moi je connaissais DJ Zebra. DJ Zebra il mélange comme ça deux artistes pour faire un seul morceau, c'est génial.
Eh ben vous allez voir.
Ouh, nouveau DJ Oliver.
Ah, yes sir. Est-ce que tout le monde est prêt pour la première?
C'est parti, vous pouvez jouer chez vous. J'en ai un déjà. Oh, joli. Ah ouais, ça y est, je les ai, les deux là. C'est toi qui as fait ça?
Non.
Ah, c'est DJ Zebra.
Non, non plus.
Ah ouais, excellent.
Alors, est-ce que les auditeurs, est-ce que chez
vous avez des réactions? Alors, là, on n'a pas de décalage avec la Vendée.
Oui, bah voilà, c'est ce que j'allais dire.
Donc, on a deux artistes mélangés et on a donc un Michael Jackson.
Oui,
voilà.
Avec
Billie Jean. Et yes. Un Eric Clapton.
Oui.
Avec Cocaine.
Oui, c'est
bien
ça.
Joué. Voilà, bien joué.
C'est pour donner aux auditeurs un petit peu les règles du jeu. Parce que
Salsifi.
Seb qui réagit, mais là je crois qu'on a donné la réponse.
Ah, attention.
Il faudra jouer Billie Jean.
Ok,
ouais.
Donc il n'y a pas qu'un décalage avec
la
Vendée.
Non, il y a décalage aussi avec la Marzelle.
Alors on va prendre un peu plus de temps avant d'attendre les réponses. C'est parti pour le numéro 2.
Yeah. Ah, moi j'en ai un.
J'en ai
qu'un. Moi, ah oui, c'est le
fiche.
Ah oui.
Comment il s'appelait, si vous voulez.
Ah ouais, super. Comment il s'appelait le gars, le coréen?
Alors, vous pouvez donner juste le nom du film.
Coréen.
Alors,
ah oui, le film c'est Ghostbusters.
Ouais. Ghostbusters.
Ray Parker de Ghostbusters.
Yes.
Et puis Parker donc le deuxième c'est.
C'est Gangnam Style.
Ouais, c'est ça. C'est Psy.
Un peu à la.
Gangnam Style.
Ah, on avait Seb qui nous répondait.
Attention, Seb, il nous répond.
Seb,
est-ce qu'il a la bonne réponse?
Est-ce qu'il avait bon?
Suspense là.
Ouais,
suspense,
c'est terrible.
Suspense.
Ghostbusters. Yeah. Yeah. Ghostbusters. Joli.
Be something strong.
Alors, il faut dire à Seb qu'il y a deux artistes qui sont mélangés. Hein.
Ouais.
Ouais, parce qu'à chaque fois, on en a qu'un. Ouais, Seb, il n'y a pas qu'un décalage de temps, apparemment.
Il n'y a que 50%.
Mais continuez à jouer avec nous.
Ouais, c'est parti, attention, numéro 3.
Enchaîne. Oh là là, chez les années 80. Moi, j'en ai un, je crois. Justin, ouais. Justin Bridoux. Oui, on a
moi,
un.
Je dirais Rasputin.
Oh, oui, c'est ça, les Boney M.
C'est ça que j'avais pas, moi j'ai l'autre.
Boney M, Rasputin.
Ah, moi j'ai l'autre, alors on peut compléter.
Ah, on est bon là, on est très très bon. Attention, on essaie.
Attention. Je ne sais pas trouver le deuxième.
Je ne sais pas trouver le deuxième.
Alors moi c'était Phil Collins.
Alors Genesis, ouais, avec.
Ah ouais, Genesis.
Avec I Can Dance. Ouais, c'est ça.
Et balèze.
Et l'autre c'était quoi, Rasputin?
Rasputin, ouais. Boney M.
Boney M.
Alors là, Sébastien, c'est pour toi, là, c'est de l'après.
Et pour la petite histoire, Boney M, en fait, aucun des personnes sur scène ne chante. C'est que du playback.
C'est comme Milli Vanilli.
Ouais.
Tout le monde a oublié, tu sais, Milli Vanilli.
Attention à la suite.
Phil Collins sera Rasputin.
Smoke on the water.
J'aide les auditeurs. J'aide les
auditeurs. Totalement improbable.
Ouais, c'est improbable de mélanger
c'est
ça.
Complètement improbable.
Alors attention, les auditeurs jouent. On les laisse répondre. Hein.
Alors Bonnie M, c'était pour avant.
Ouais.
Attention, attention.
Non, mais là,
c'est,
je
attention,
sais pas.
Attention,
je...
attention, attention.
Son comble.
Bon ben voilà. Bon, donc bah, on n'a pas de réponse.
On a pas de réponse.
Donc alors, c'était Deep Purple, Smoke on the Water.
Et oui, c'est ça.
Avec comment, les Bee Gees.
Les Bee Gees.
You should be dancing.
Yes.
Yeah.
Alors celle d'après.
Attention, attention.
Plus compliqué.
Ah.
Ah, ça va rater.
Gimme, gimme, gimme a man.
Ah, j'en
ah oui,
ai
moi aussi.
J'en ai reconnu un.
Mais les deux, même, je crois.
Pussy Rammstein.
C'est ça, Pussy Rammstein.
L'autre, c'était Abba, Gimme, Gimme, Gimme.
Alors, Gimme, Gimme, Pussy.
Et Seb, il avait trouvé, hein. Bravo, Seb. Mais...
Ah, bien joué, Seb.
Mais t'avais oublié la 5.
J'ai oublié. Oh là là, oh, là, 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 là.
Ouais.
On va revenir.
Ah, bah, vas-y,
Back to
la
the
5.
Future.
Bah oui.
Yes, sir.
La 5. Oh, c'est pour moi, ça. Par contre, j'en ai qu'un. J'en ai un, moi, c'est sûr. L'autre, je sais pas.
Ouais, moi, j'en ai aucun, là.
Ah ouais ?
Pas simple, tu vois.
Ah ben alors, il y en a un, c'est pour moi, qui est forcément facile. C'est
Black Sabbath. On a Seb qui réfléchit.
Alors, c'est Black Sabbath, ouais. Children of the Grave.
Children of the Grave.
Et alors, les chanteurs, c'est les Temptations, Get Ready, 1966. Et je peux vous assurer que c'est pas du tout la même musique.
Oh.
Mais ça se mélange bien.
Ah, c'est sûr que Black Sabbath et Temptations, c'est pas pareil. Écoutez Black Sabbath.
La 7.
On en a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Je les aime, les deux là. Je les ai, je le sens.
Moi je dirais qu'il y a du Marilyn Manson.
Non.
Alors
enfin, c'est... il a fait une reprise.
Oui,
sur,
ouais, c'est ça.
C'est
ouais.
Personnel DJ.
Non. Alors
bah, non, ça...
effectivement. Alors il y a Depeche Mode.
Ah voilà. Ouais.
De Personal Jesus et le deuxième, c'est aussi une reprise.
C'est Soft Cell.
Les Soft Cell.
Tainted Love. Mais en fait, Marilyn Manson a repris les deux.
Mais oui, c'est pour ça. J'étais un peu perturbé.
Elle a repris les deux chansons.
Ah, je savais pas.
Et en fait, même Soft Cell, c'est une reprise. Hein.
Ouais.
La chanson de Soft Cell, c'est une reprise d'un vieux titre. Ouais.
Ah,
Tainted Love. Mais personne ne le sait. Hein.
Tainted Love. Bah il l'a repris, Marilyn Manson. Mm. Tel quel les riffs de guitare finalement sont très sonores. Mm.
Mais là, ce qui est rigolo, c'est qu'il a repris les deux titres en fait.
Mais ouais. Mm. Donc en fait, il nous a fait un bootleg.
Exactement.
La suite.
Tout de suite. Oh. Alors là c'est pas facile parce que le truc qu'on entend là, on connaît aussi une reprise. Ouais parce que c'est la reprise ça.
C'est la reprise. Hein.
Alors
pas facile là.
Alors, il y a Eurythmics.
Yes.
Ouais,
Sweet Dreams.
Sweet Dreams, ouais. Repris par Marilyn Manson. En fait,
encore,
il fait que des reprises.
Il fait que des reprises. Ça se demandait s'il a pris.
Et alors, l'autre, c'est pas facile parce que c'est Can't Touch This, mais c'est une reprise de Super Freak.
Ouais, Super Freak.
Ouais.
Super Freak.
Mais celle-là, c'est la reprise de.
Donc, c'est MC Hammer.
MC Hammer,
MC Hammer Can't Touch This.
Can't Touch This.
J'avais fait écouter ça à Paul, il était mort de rire.
Ouais, non, mais
c'est. Je lui ai dit, ça, c'est les débuts du rap.
Ouais.
Et donc, ça l'avait fait marrer.
Ah
ouais,
Seb,
ouais,
bravo
Seb,
bravo
les auditeurs,
bravo les auditeurs, parce que c'était pas facile.
Can't Touch This, bah ouais, mais ça c'est parce que Oliver, mine de rien, il facilite la tâche aux gens qui sont nés dans les années 70 et qui ont grandi dans les années 80, parce que
c'est un peu ça.
Voilà.
Je vous ferai un quiz minicum un jour, moi. On avance.
Ouais, c'est ça, me fait les minicum.
Le 9.
Ah oui. Darling, just dive right in. Follow my lead. Moi j'en ai qu'un là.
I found a girl, beautiful and sweet.
Salut Paul, si t'écoutes.
Et Anaïs,
ah, bah,
Anaïs
a trouvé. Bah, bravo Anaïs. Forcément.
Eh oui, bravo Anaïs.
Enfin une chanson de John.
Bien joué,
Ed Sheeran et Police.
C'est bien
Every
ça.
Breath You Take.
Et Ed Sheeran, c'est perfect.
Alors là, police, attention, Anaïs King derrière.
Remonte, hein, Seb, tu te fais rattraper par Anaïs. Ouais. Attention.
Attention, attention. Donc on avance pour la suite. Est-ce que Seb et Anaïs sont prêts et les autres
oui,
auditeurs aussi?
Tout le monde est prêt.
Ah, là, ça va être pour Sébastien, c'est le
choix. Oui. Oh yeah. Ah, j'ai fait écouter ça à Paul il y a pas longtemps. Moi je chante très bien Under the Bridge.
Alors, la musique est plus compliquée à trouver.
On avait les Red Hot.
Ouais. Attention, attention. Get Anaïs avait.
Alors est-ce que tu peux nous remettre la musique, tiens, pour ce qu'on essaye de retrouver.
La musique est pas simple du tout.
Enfin, je l'ai aussi.
Ça me dit quelque chose.
Hein. Du Sum 41.
Ah bah, utilise Shazam. Ah bah non. C'est pas les. Ah, je sais, c'est pas. Les Chemical Brothers.
Gagné.
Ouais, c'est ça.
Oh, pas simple du tout, c'est la trouver.
Oui. Chemical Brothers.
C'est quelle chanson de. C'est Hey Now ou
non,
c'est.
Non, c'est Block Rockin' Beat.
Ah, Block Rockin' Beat.
Ah, c'est vrai, cool.
Ouais, c'est, ça fait, c'est, plaisir, fait partie des titres électro qui ont vraiment fait connaître les Chemical Brothers. Hein.
Ouais.
C'est vraiment.
Alors attention, Anaïs, la prochaine c'est pour toi.
Attention.
Adèle. Eh oui.
Adèle of the Tiger. Survivor,
Eye of the Tiger.
C'est
et
Rocky 3. C'est énorme.
Et Adèle avec Rolling in the Deep. Oui, c'est ça.
Excellent.
Ah, c'est
bravo,
excellent,
Anaïs.
Ça. Bravo. Attention, là, on a Seb qui a mis OK.
Et alors là, clin d'œil au début d'émission.
Oh. This is the end. Et Salomé. Encore Billie Jean. Pardon.
On a une grosse battle entre les auditeurs.
Ouais, ouais. Et alors, c'est quoi le titre? Parce que non, les Doors, ok, mais et Michael, ok, mais c'est quoi le titre de la chanson?
Ah,
il y a un décalage avec la Marzelle, hein. C'est comme la Vendée. Hein.
Ah, on va
Riders on the Storm.
Je vous le remets un petit coup.
Ouais, joli. Alors là, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas de décalage avec Angers, il n'y a pas de décalage avec Sceaux d'Anjou, mais il y a un décalage avec la Marzelle, c'est-à-dire Soulaine-sur-Aubance. Donc là, on ne comprend pas.
Un microclimat.
Bravo Seb, médiatique. Bravo Nathalie et bravo Anaïs.
Ouais, c'est bien ça.
Ouais, parce qu'il faut avouer qu'il y a quand même de la réactivité hein, en ligne, attention, ah, attention.
Ça joue. Hein.
Attention.
Et le dernier.
On est au dernier. Alors là, c'est le point qui compte très bien.
Et Salomé, je ne sais pas qui c'est.
Un spécial dédicace pour Florence cette fois.
Ah, pour Florence.
Attention.
Elle est pas mal cette version. Ça, ça lui plaît comme reggae. Ça, c'est du reggae qui bouge ses fesses.
Ah, on a quelqu'un qui nous.
Get up. No. J'ai vu en concert, moi, c'était énorme. Je peux vous dire. Alors, pas celui qui est mort, l'autre. Parce que je donne pas la réponse. Oui, alors c'était. Alors, Bob Marley.
Ouais, c'est
Get
ça.
Up Stand Up.
Il faut l'entendre, hein.
Ah si si.
Ah bah écoute,
on va remettre. Et In the Midnight Hour, c'est Billy Idol.
Billy Idol. Alors écoutez, c'est excellent. Mais la chanson est géniale.
Vas-y, fais péter le son. Assez marrant.
Et alors, pour terminer, donc je vous en ai fait écouter. Je vais vous en faire écouter une, mais en totalité, parce que j'ai adoré cette version.
Attention, le son passe difficilement le sud de la Loire. Espérons que ça passe.
Et attention, on écoute la chanson mystère.
Thank you.
the wall.
Ah, ça c'était du bon son, Olivier.
Et bravo à tous ceux qui ont participé et qui ont donné les réponses.
Et ouais, et donc l'émission arrive à sa fin. On est triste de vous quitter, mais on sera heureux de vous retrouver la semaine prochaine.
On parlera du Hellfest.
Eh oui,
la programmation est sortie.
On pourra faire une émission spéciale. Bon bah salut Olivier, merci pour ce super quiz.
Et bah merci à tous.
Salut Seb, merci d'avoir pris le début de l'émission.
Aucun problème, il vous en prie. À la semaine prochaine.
Et moi je vous dis à la semaine prochaine, au plaisir, et on se quitte avec Grammatic, Hit That Jive.
Salut.
Salut.
Geek Mafia. Put it in pocket like it's back. Going downtown, see your man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that job, Jack. Put it in pocket.